Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Parce que si moi je ne sais pas que j'ai un TDAH, je ne comprends pas comment c'est possible que j'ai mis autant de peine à travailler jusqu'à maintenant, puis je prends tout à coup de la coke et puis c'est hyper simple.
Dans le paysage complexe des troubles neurologiques, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, suscite un intérêt croissant, notamment pour ses connexions avec l'addiction. J'ai eu envie d'en savoir davantage, d'éclaircir ces liens entre la propension à la récompense immédiate que connaissent bien des dépendants et le TDAH, trouble associé à des difficultés de concentration, d'organisation et d'impulsivité. Comment ces deux sphères se rencontrent-elles ? Afin d'explorer cette connexion, deux voies apparaissent. Le TDAH en tant que trouble autonome ou sa comorbidité avec d'autres conditions telles que le trouble anxieux, la dépression ou le haut potentiel. Mon invité est psychiatre et psychothérapeute diplômé de l'Université de Genève et s'intéresse particulièrement aux pathologies émotionnelles. Ses recherches portent sur la personnalité borderline, le TDA avec ou sans hyperactivité et les stratégies de régulation émotionnelle. Il est co-auteur du manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention destiné à l'adulte aux éditions Erol. Il insiste sur l'importance de ne pas se limiter à ce trouble pour définir son identité et met en avant des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des personnes diagnostiquées. Je suis ravie de recevoir le professeur Nader Perrou pour nous aider à comprendre ces dynamiques complexes et aider celles et ceux qui font face à ces défis au quotidien. Bonjour professeur Nader Perrou.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Je suis ravie de vous recevoir à distance parce que j'ai, tout au fil de mes recherches et de mes interviews avec de nombreux candidats à l'addiction, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un tronc commun qui était souvent justement des neurodiversités, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est un trouble de neurodéveloppement, en tout cas des choses très communes qui étaient souvent justement ce trouble de l'attention, ce trouble du déficit de l'attention. Est-ce que vous confirmez qu'il y a ce point commun entre les addicts et les TDAH?
Il y a un point commun. Plus spécifiquement, c'est le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, hein, abrégé ouais. TDAH. Qui est un trouble neurodéveloppemental et qui est souvent, hein, on va le retrouver dans un tiers ou même un peu plus d'un tiers des personnes qui ont des addictions. C'est un facteur de risque important en fait, pour développer des addictions à l'adolescence ou à l'âge adulte. Hein. S'agissant d'un trouble neurodéveloppemental, il précède de facto l'apparition des addictions. C'est assez rare d'avoir des enfants addicts. Hein. L'addiction va apparaître plutôt à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et donc, de ce fait, il est souvent considéré comme un facteur de risque.
D'accord. Donc, il est là en amont. Est-ce que vous pouvez me donner une définition pour vous de l'addiction et puis du trouble déficitaire, de l'attention aussi, tant qu'à faire? Qu'est-ce que pour vous, comment définiriez-vous l'addiction?
Alors, l'addiction, c'est une difficulté à ne pas utiliser une substance ou ça peut être aussi des jeux vidéo, hein, par exemple. Malgré en fait les conséquences négatives que ça a sur soi ou sur son entourage, ou malgré les conséquences négatives à moyen long terme, donc on est poussé malgré le fait qu'on sache très bien hein, que finalement la plupart des personnes addictes sont tout à fait au courant. Hein, c'est pas des gens stupides, c'est juste des gens qui n'arrivent plus à se détacher en fait de la substance ou de du média auquel ils sont addicts. Alors, c'est parfois associé à une dépendance physique aussi, hein, dans le sens qu'il y a des substances qui génèrent des dépendances, hein, comme l'héroïne par exemple. Mais pas doute, hein, il n'y a pas forcément de dépendance physique aux jeux vidéo, mais il y a une addiction aux jeux vidéo également.
Une addiction psychologique?
Oui, c'est une addiction psychologique. Enfin, le terme dépendance est réservé essentiellement pour les parties, on va dire, plutôt que quand il y a une modification physique. Avec un phénomène de tolérance et un phénomène de sevrage lorsqu'on arrête l'utilisation de la substance. Mais on peut avoir une dépendance à une substance sans forcément être addict. Hein. Je peux être dépendant, par exemple, aux anti-inflammatoires. Je n'ai pas forcément un besoin psychologique d'aller chercher les anti-inflammatoires, mais je vais être dépendant parce que je ne peux pas faire sans les anti-inflammatoires. Et j'ai mal, par exemple, au genou, parce que j'ai développé une dépendance à cette substance. Je n'ai pas une addiction.
Ah, il y a une vraie nuance entre addiction et dépendance, ouais. On va dire, médicalement parlant. La dépendance, c'est physique?
La dépendance, ça nécessite l'apparition de tolérance. Donc, c'est-à-dire que je dois augmenter les doses pour avoir le même effet. Et puis, la notion de sevrage, c'est-à-dire que j'ai une augmentation des symptômes primaires lorsque j'arrête la substance. Je reprends l'exemple des anti-inflammatoires. Je peux avoir une petite douleur au début. Je commence à prendre des anti-inflammatoires. Ça va passer ma douleur. Je vais devoir augmenter petit à petit un peu les dosages pour pouvoir ne plus du tout ressentir la douleur. Puis après, je ne peux plus me passer de ces anti-inflammatoires. C'est-à-dire que j'arrive plus à faire sans. Et la douleur est plus forte malgré des dosages plus importants lorsque j'arrête la substance ou l'anti-inflammatoire. Mais j'ai pas d'addiction parce que je n'ai pas forcément un besoin de psychologique de prendre les...
D'accord, j'ai compris. Et comment on définit aujourd'hui le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité?
Alors, la variation de TDAH, donc c'est un trouble qui débute dans l'enfance, qui peut se manifester de deux manières, donc avec soit des difficultés attentionnelles, donc c'est une tendance à la distractibilité, une tendance à la rêverie, à perdre des objets, c'est des problèmes à se concentrer longtemps sur quelque chose qui est ennuyeux, rébarbatif, sans récompense immédiate. C'est aussi des difficultés d'organisation et de planification des tâches. Donc c'est souvent, ça va apparaître dans l'enfance, typiquement avec un enfant qui en classe est rêveur dans la lune, va souvent en classe en perdant ses carnets qu'il doit ramener à l'école ou en oubliant les devoirs qu'il doit faire. Il a de la difficulté où il fait tout au dernier moment à l'école. Il va ainsi être souvent en retard sur les tâches qu'il doit rendre, etc. Donc, c'est une sorte de stress un peu permanent et de personnes à l'adulte. C'est des gens qu'on va rencontrer qui vont souvent arriver en retard, qui perdent des objets, qui sont un peu brouillons, qui font des erreurs dans les choses qu'ils doivent ramener ou dans les rapports qu'ils doivent donner. Ce qui amène finalement des difficultés tant au niveau professionnel, au niveau scolaire, au niveau familial. Hein. C'est clair que si moi je suis en train de perdre toutes les choses que j'ai besoin au quotidien, si je fais tout au dernier moment sous stress, ben, les gens vont commencer un peu à s'énerver, je suis peu fiable et finalement ben, je vais être amené à être soit licencié, soit pas réussir mes études. Et au final, ça amène à un niveau socio-économique qui est plus bas, hein, socio-professionnel aussi que la population générale. Et à côté de ça, vous pouvez avoir ou pas, c'est pas forcément associé, de l'hyperactivité avec de l'impulsivité. Donc ça, c'est une tendance à parler beaucoup, à bouger beaucoup. c'est une difficulté à rester en place, à rester tranquille lorsqu'on est censé être tranquille. Alors chez l'enfant, c'est typiquement un enfant qui va se lever pendant la dictée, par exemple, ou qui va constamment interrompre ses camarades de classe pour les déranger, ou l'instituteur pour poser des questions, alors qu'il faut peut-être se taire à ce moment-là. C'est des enfants qui peuvent être assez impulsifs et intolérants aux émotions. Donc, c'est une difficulté de contrôle des émotions, particulièrement au niveau de la frustration. Hein. Il y a une forte intolérance à la frustration chez ces enfants, qui peuvent facilement se mettre en colère et se retrouver dans des bagarres avec d'autres camarades. Et ça va plutôt s'intérioriser à l'âge adulte. Hein. Les adultes vont plutôt décrire une tendance à avoir de la peine à rester tranquille lorsque c'est demandé, typiquement à se détendre, à se relaxer pendant les week-ends, par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'activité lucrative. C'est aussi la tendance à s'énerver, à se sentir frustré, va persister aussi, hein, avec une tendance à prendre des décisions souvent rapides, non réfléchies. Hein. L'idée, c'est que ce soit pour les difficultés attentionnelles ou l'hyperactivité ou l'impulsivité, hein, c'est ces deux grands domaines du trouble, je suis très dépendant de la récompense immédiate. C'est qu'il faut que les choses viennent tout de suite, que les problèmes se résolvent immédiatement. Sinon, soit je m'en débarrasse, puis à ce moment, c'est des déficits d'attention, c'est-à-dire que je ne fais pas la tâche, je procrastine, je la mets de côté, soit je dis oui à tout et je fais tout de suite, sans réfléchir, évidemment, que ceci peut avoir des conséquences à moyen long terme. L'impulsivité et donc la dépendance à la récompense immédiate est un des grands domaines du TDAH. Et ça explique, évidemment, la comorbidité ou pourquoi le TDAH est un facteur de risque pour les addictions.
Et par rapport au fait aussi que justement il y ait une comorbidité avec le trouble anxieux et la dépression, ça aussi c'est un facteur de risque pour l'addiction.
Oui, alors si on regarde, hein, donc je vous ai décrit un peu ce que c'est que le TDAH,
donc
il faut un certain nombre évidemment de symptômes avec un handicap dans au moins deux sphères de la vie de la personne, hein, c'est des critères assez précis, hein. Tout le monde n'est pas diagnostiqué TDAH, il y a un nombre de symptômes qu'il faut, il faut un impact, il faut un handicap ressenti. Et puis selon les manuels diagnostiques des pathologies mentales.
Alors attendez, est-ce que c'est une pathologie? Est-ce qu'on peut appeler ça une maladie ou une pathologie? C'est pas la même chose?
Si, c'est à peu près. C'est un trouble. On va appeler ça plutôt un trouble. C'est un trouble neurodéveloppemental dont on ne guérit pas.
D'accord.
En fait, on est avec, on va mourir avec.
Et les chiffres pour savoir un peu, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y en a beaucoup trop, alors qu'en fait, on est autour de 3% de la population, non?
Alors c'est chez l'enfant autour des 5%.
Ah oui.
5 à 6%, et puis chez l'adulte, plutôt autour des 3-4%, ce qui explique qu'on a une partie des personnes qui vont avoir une disparition, en fait. C'est pas une disparition du trouble, mais le trouble va s'atténuer, possiblement, parce que la personne, si elle a été diagnostiquée suffisamment tôt, et puis qu'elle a eu un environnement dans lequel elle a grandi, qui a été attentif à ses besoins, à ses désirs, qu'il n'a pas critiqué tout le temps parce que la personne réussissait pas ou avait des difficultés d'attention, la personne va pouvoir avoir des stratégies pour faire avec ces symptômes, mais en fait, le trouble ne sera plus significativement handicapant et donc on ne peut plus retenir un TDAH à l'âge adulte. Donc, on a environ 70% de persistance du trouble à l'âge adulte, mais on en a 30% chez qui ça disparaît. Et le meilleur prédicteur de la disparition de ce trouble à l'âge adulte, c'est de grandir dans un environnement, on va dire, très compréhensible, très validant, en fait, du TDAH. Donc, plus on détecte tôt, plus on explique tôt aux parents, à l'entourage, aux instituteurs, à l'école, etc., que cet enfant a des difficultés, il est un peu différent des autres. Et c'est pas très grave s'il perd de temps en temps ses affaires ou s'il parle un peu beaucoup, soyez tranquille avec lui, amenez-le plutôt devant la classe plutôt que de le mettre derrière avec les autres qui perturbent. Enfin, c'est plein de petites stratégies comme ça. Si on arrive à faire ça tôt, on a des chances que la pathologie disparaisse ou en tout cas s'atténue suffisamment pour qu'elle ne remplisse plus les critères du trouble. Donc là, c'est vraiment un intérêt, parce que si on fait ça, on va prévenir l'apparition de ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Le fait de vivre avec un TDAH est un handicap, et donc amène à des différences par rapport aux autres. On parle généralement de neuroatypie, si on veut. Ça expose évidemment un environnement qui est délétère. Je vais moins bien réussir à l'école, je vais avoir plus de chances d'être harcelé à l'école, je vais avoir plus de chances de me retrouver dans des milieux qui sont soit défavorisés et autres. Et donc, je vais être plus à risque de développer des dépressions, des troubles anxieux et des addictions. Hein, il faut vraiment comprendre que ce soit le trouble anxieux, que ce soit la dépression, que ce soit les addictions, c'est des outcomes secondaires. Donc, c'est vraiment, d'accord, quand on a un TDAH, on est fortement à risque. Chez l'adulte, on a 80%, 70 à 80% des adultes qui ont eu ou qui ont une comorbidité psychiatrique. En tout cas, 80% au moins une fois dans leur vie. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir de toute façon à un moment donné soit un trouble anxieux, soit une dépendance à l'alcool, soit une dépendance au cannabis, soit un trouble dépressif, soit on va faire un burn-out. Mais on va avoir quelque chose parce que de vivre avec un TDAH, il faut comprendre de nouveau que ce trouble ne disparaisse pas. Donc je suis constamment en train d'essayer de trouver des stratégies.
De compenser en fait.
Donc c'est dur, il y a un moment où ça va être compliqué si mon environnement change. Hein. Si moi par exemple j'ai... J'ai une tendance à procrastiner, puis je fais pas les tâches la journée, par exemple. Puis je suis toujours à la bourre, je suis toujours en retard, puis que j'arrive pas à faire les choses dans les temps. Eh ben, si je suis tout seul et que je vis seul, ça pose pas de problème parce que je peux y rattraper un peu le soir. Donc je vais faire ça le soir devant la télévision, puis je vais écouter un podcast en même temps, puis je fais mon truc, et puis je vais dormir à 3h du matin, puis c'est pas grave si le lendemain je suis un peu crevé, puis que j'ai la tête dans le cul pour être un peu cru, et puis que j'ai de la peine, si je peux me permettre des termes un peu crus, et que le lendemain je vais avoir de la peine à fonctionner, je vais pouvoir dormir très tôt le lendemain pour récupérer, puis je fais ma vie comme ça et ça se passe bien. Le jour où je me mets en couple, je peux plus faire ça. Donc, tout ce que j'avais utilisé comme mécanisme adaptatif pour pouvoir pallier à mes difficultés, ben, ça marche pas et je m'effondre. Et à ce moment, je vais être stressé, je vais être irritable, je vais commencer à développer soit une dépression, soit le soir, je vais être tellement nerveux que je vais commencer à boire de l'alcool pour me détendre parce que ça va être le seul moyen que j'ai de dormir, parce que je commence à m'activer le soir, parce que je peux pas faire les tâches que j'avais pas fait la journée. Et c'est un cercle vicieux dans lequel, ben, finalement, je vais tomber parce que juste, j'ai eu un petit changement environnemental qui fait que le mécanisme adaptatif, ou le mécanisme de coping, comme on l'appelle, s'effondre. Il faut comprendre que la vie d'un TDAH, c'est comme un château de cartes un peu bancal que je construis, et je dois constamment voir, quand je change mon environnement, quelles cartes je change pour pas que le château s'écroule. Et en gros, il a des chances de s'écrouler hein, sur n'importe quel changement. Hein. Ça peut être l'arrêt de sport, par exemple, d'une activité sportive qui me permettait de canaliser mon hyperactivité. On a beaucoup hein, de patients qui étaient des hyperactifs intenses, qui utilisaient le sport parfois à l'excès, hein, parce qu'on peut faire des addictions au sport, et qui canalisaient une bonne partie de leur énergie, de leur stress, etc., via l'activité sportive. Le jour où ils ont une activité lucrative qui leur empêche, ou professionnelle qui leur empêche de faire l'activité sportive, ils arrêtent. Puis tout à coup, ben, y a toute l'hyperactivité qui réexplose, ils ont de la peine à se concentrer, ils procrastinent. Ben, va falloir commencer à prendre des substances pour se concentrer. Généralement, c'est de la cocaïne ou des psychostimulants, où je vais commencer à boire énormément de café. Puis le soir, comme je suis complètement excité, il va falloir que je pose le système. Je commence à fumer du cannabis et puis tout le système s'emballe et puis j'ai un risque de développer de la dépression.
Donc en fait, si je comprends bien, c'est pas obligatoirement révélé jusqu'au moment où il y a une décompensation. C'est ça, c'est la décompensation. Ouais. C'est ce moment où il y a un déclencheur qui fait que soudainement, on peut plus justement faire comme avant et tout va s'effondrer comme un château de cartes. Il y a autre chose que j'essaye de comprendre aussi, c'est quand ils sont diagnostiqués tôt, c'est encore plus important pour l'entourage que pour la personne qui est diagnostiquée. Moi, j'ai l'impression que ce qui va justement aider énormément, c'est que l'entourage soit compréhensif et que justement, on arrive à comprendre que ce n'est pas de son fait, que s'il n'y arrive pas ou s'il ne peut pas se concentrer ou s'il coupe la parole ou s'il il tient pas en place. C'est ça, c'est-à-dire c'est ça qui va aider beaucoup.
Plus c'est tôt, plus les aménagements, on va dire, qu'on appelle environnementaux, familiaux, ont une importance.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on peut, et il y a certaines études, alors ce n'est pas hyper bien validé et autres, mais qui montrent qu'on pourrait faire des interventions que dans la famille ou dans l'entourage, dans la famille au sens très large du terme, mais... et qu'on peut se passer de traitements médicamenteux hein, dans ces cas-là, parce que ça peut être suffisant. C'est-à-dire que si les parents sont conscients, les instituteurs sont conscients, l'entourage, au sens large du terme, sait que cet enfant ne fait pas exprès de sortir de table dès qu'il a fini de manger parce qu'il s'ennuie et que ce n'est pas si grave s'il sort de table et qu'il faut être compréhensible que, par exemple, quand l'enfant rentre à 4h ou à 5h de l'après-midi, et qu'il n'a pas envie de faire ses devoirs, qu'il ne faut pas forcément le forcer à faire une heure de devoirs maintenant, mais plutôt de lui proposer une pause et de revenir après. En fait, d'être attentif à ses difficultés. On fait une psychoéducation assez simple. On explique en quoi consiste le trouble, quels sont les aménagements qu'on peut faire, et puis ça peut être suffisant.
Même pour les professeurs aussi, quand on leur annonce, par exemple.
Ouais, alors, c'est clair que dans la famille, ça ne jouera pas, hein, parce qu'il va falloir aussi que les profs à l'école soient au courant
jouent le jeu, hein,
de...
Ouais.
de ça aussi pour mettre en place et aider l'enfant à être plus attentif, que s'il a besoin de faire des pauses plus fréquentes, il puisse sortir de la classe et puis faire un petit tour et revenir, que quand il a des épreuves, par exemple, ou des dictées ou tout ce que vous voulez, qu'il ait un temps supplémentaire parce qu'il va mettre plus de temps pour se concentrer. Après, c'est vraiment les mêmes types d'aménagements qu'on a pour les dyslexies, dysorthographies, etc.
Le tiers
marche temps. Très bien, ces aménagements ont très bien marché également pour quelqu'un qui a un TDAH. Et c'est clair que ça, c'est vraiment, il y a vraiment un enjeu de santé mentale et de santé publique générale.
Il y a un enjeu surtout pour le futur de nos enfants. J'ai l'impression qu'en fait, si on arrive aujourd'hui à accepter et à diagnostiquer ça et à leur accorder l'attention et le temps nécessaire, ça va les aider pour le futur. Mais le problème aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, moi je le vois parce que justement, j'ai un enfant qui a été diagnostiqué. Les professeurs, en fait, on en a un peu marre aussi. Ils ont l'impression qu'il y en a trop dans leur classe. Et ils sont là, oui, on va lui donner un tiers-temps. Oui, on va faire ça. Ils vont le faire, mais ils n'y croient pas, en tout cas. Et ils pensent que tous les enfants peuvent être diagnostiqués, en fait. Et moi aussi, hein, parfois, je me dis, en fait, ils sont tous... Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
Alors, est-ce que la question derrière, c'est celle du... C'est un phénomène de mode et on en diagnostique trop. Alors, ça, c'est faux. Hein. On sait que c'est un trouble qu'on redécouvre, on va dire ça plutôt récemment, qui n'était en fait pas diagnostiqué il y a 10, 20, 30 ans en arrière, parce que les systèmes de santé, et particulièrement en fait, les hôpitaux ou les universités de psychologie ou de psychiatrie, enseignaient peu cette pathologie en fait, aux psychiatres et aux psychologues. Donc, c'était pas du tout diagnostiqué. Moi-même, j'ai jamais eu d'enseignement sur le TDAH. Je savais même pas que ça existait chez l'adulte, moi. Donc, c'est parce que je suis parti me former en Angleterre pendant 2 ans que j'ai découvert que cette pathologie existait à l'âge adulte et persistait à l'âge adulte. Donc, autant dire que la plupart des psychiatres que vous allez rencontrer ou psychologues, ils ont plutôt mon âge. Ceux qui pratiquent, et donc ils n'ont jamais eu d'enseignement sur le TDAH. Alors, à l'époque, maintenant on a de plus en plus de connaissances, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette pathologie, qui se rendent compte qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément dépressif, récurrent, avec une résistance aux antidépresseurs, ou tout le monde n'a pas forcément qu'une phobie scolaire, ou tout le monde n'a pas forcément qu'un trouble anxieux, qui étaient les pathologies essentiellement enseigné à l'époque, et qu'il y a peut-être d'autres choses qui expliquent que mon enfant ou que moi, j'ai une tendance à me stresser lorsque j'ai des tâches à faire. Et on va être plus fin. En fait, on diagnostique plus parce que on a une meilleure connaissance de ces pathologies neurodéveloppementales. Une autre qui est aussi, qui est en train d'émerger maintenant, c'est les troubles du spectre autistique, qui était une pathologie aussi qu'on détectait très mal. Et particulièrement chez les femmes, on a le même problème chez les filles et les femmes pour le TDAH que pour le TSA, le trouble du spectre autistique, qui étaient des pathologies qu'on pensait essentiellement masculines et qui n'existaient que très peu chez les femmes ou les filles, ce qui est entièrement faux. Donc c'est sûr qu'on va avoir plus de diagnostics maintenant, mais ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est simplement parce qu'on détecte mieux et qu'on connaît mieux cette pathologie. Alors c'est sûr que pour les enseignants, c'est embêtant parce qu'on va être... On va leur proposer plein d'aménagements, plein de stratégies pour aider ces enfants. Et soit ils n'ont pas les moyens, soit eux n'ont pas du tout conscience ou connaissance de ce que je viens de vous dire. Eux, ils vont lire les médias, la presse générale.
Juste une question, j'ai l'impression aussi que ce que vous décrivez comme des symptômes, qui sont par exemple la procrastination, le fait d'être débordé, d'être paniqué, d'être anxieux, tout ça, eux, les professeurs souvent, ou d'autres personnes, voient ça comme des traits de personnalité. On se dit, on ne va pas aménager des emplois du temps ou des contrôles ou des évaluations en fonction de chaque trait de personnalité de chacun. Ils ont des tocs, des routines, ils sont anxieux, ils sont paniqués. En fait, tous les enfants sont un peu comme ça aussi, ils sont la phobie scolaire, tout ça. Aujourd'hui, l'école, est-ce qu'elle est adaptée ?
La question, c'est une question assez compliquée, parce que c'est tous les enfants sont comme ça. Non, de nouveau, c'est un trouble, donc c'est un fort handicap. C'est pas parce que si je procrastine que à l'école que j'ai un TDAH. J'ai une tendance à avoir la procrastination plus d'autres symptômes qui vont handicaper non seulement l'école, mais aussi au niveau familial. Moi, j'ai une fille qui a un TDAH aussi. Je peux vous assurer que ça compliquait la vie, pas qu'à l'école, mais ça compliquait la vie aussi à la maison. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est ingérable. Donc, ça en devient un trouble parce que c'est un impact très important. C'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Donc, ça, c'est déjà une première chose, c'est qu'il faut un impact significatif. L'autre, bah, c'est qu'en fait, le système éducatif a beaucoup changé. Hein. On va demander, parce que c'est des nouvelles pathologies, des aménagements qui n'existaient pas il y a 20-30 ans en arrière. Hein. On est de plus en plus à essayer de faire de la prise en charge individuelle en fonction de tel ou tel enfant. Et le système de éducatif n'est pas du tout préparé à ça. Hein. Enfin, faut bien se rendre compte que je me mets à la place d'un instituteur ou d'un prof. On vient, on me dit, t'as tel enfant qui doit faire ça, tel enfant qui doit faire ça, tel enfant qui doit faire ça. Moi, je deviens fou. Je pense que c'est aussi compliqué. Et ça, c'est à l'État de faire en sorte que les instituteurs ou les professeurs puissent avoir les moyens et puissent comprendre aussi pourquoi ils le font. Parce que moi, je donne de plus en plus de cours dans les écoles. Je vous assure que de simplement donner des cours dans les écoles et expliquer en quoi consiste le TDAH et que c'est pas tant d'énergie que ça. Il faut juste savoir quoi faire à tel moment. Et que généralement, les aménagements sont un peu les mêmes pour toutes ces pathologies-là. C'est pas si difficile. En fait, les profs après sont beaucoup plus enclins à faire ces aménagements-là et ça leur pose moins de problèmes. Et généralement, ils vont se dire, ah ben tiens, moi je connais aussi quelqu'un dans ma famille qui a ça. Et finalement, ils vont se reconnaître et puis c'est, parce que c'est prévalent, hein, de nouveau, c'est très fréquent.
Pour revenir à l'addiction, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est le lien entre le TDAH et le plaisir, et les addicts et le plaisir. En fait, disons que c'est ça qui fait qu'il y a une connexion, c'est que ces personnes-là ne sont pas très enclines. Et donc là, c'est pour ça qu'aussi je me reconnais énormément. Je ne sais pas faire quelque chose qui ne m'apporte pas de plaisir. Et donc, j'ai pris de la cocaïne pour pouvoir passer l'aspirateur comme plein d'addicts, pour faire des choses qui me semblent impossibles à faire, des tâches routinières qui n'apportent aucune satisfaction.
Ouais, bah alors vous donnez un bel exemple de comment est-ce que je peux finalement en arriver à devenir addict à une substance quand j'ai un TDAH. C'est-à-dire que ça va souvent être utilisé au début comme... Alors, il y a le terme automédication que j'aime pas beaucoup parce que c'est pas forcément une automédication, mais c'est-à-dire que je me rends bien compte que j'ai une difficulté X, hein, soit que j'ai une difficulté à me poser, à rester tranquille, à me relaxer, et je vais plutôt prendre quelque chose qui me détend la tête, donc de l'alcool ou du cannabis, et puis tout à coup ça marche, je me dis, ah, tiens, c'est fantastique, c'est la première fois que j'arrive à dormir depuis que je suis tout petit, le lendemain je vais reprendre de l'alcool ou du cannabis, et puis finalement je deviens dépendant à ces substances-là. À l'inverse, on va retrouver, je fais des études, j'ai un pote qui prend de la Ritaline, hein, même si c'est un terme de marque, mais qui prend de la Ritaline, il me dit, j'essaye, puis je me dis, oh putain, c'est la première fois que je suis capable de me concentrer, de faire le truc, et petit à petit, je vais commencer à prendre de la Ritaline, puis je me dis, tiens, j'essaierai bien la coke, et je prends la coke, et puis finalement, je me rends compte que ça marche, et puis je développe une dépendance à ces substances. D'accord ? Ça, c'est vraiment le symptôme, et là, on voit très, très bien comment le TDAH est un facteur. Parce que si moi, je ne sais pas que j'ai un TDAH, ben, je ne comprends pas comment c'est possible que j'ai mis autant de peine à travailler jusqu'à maintenant, puis je prends tout à coup de la coke, et puis c'est hyper simple. Donc je me dis, bah, je vais continuer à prendre de la coke. Personne ne me dit, et en fait, je ne me rends pas compte. Et comme je suis pas dans le monde de la santé ou autre, je ne sais pas que la coke, il y a un risque d'addiction, il y a un risque de... Il y a des complications cardiovasques ou tout ce qu'on veut. Hein, je n'ai pas cette notion-là. De même que pour le cannabis. Hein, il faut se rendre compte que c'est une souffrance depuis l'âge de 5 ans ou 6 ans. Moi, j'ai plein de patients qui sont dépendants au cannabis. Moi, j'ai commencé le soir quand je rentrais chez moi. Et quand je rentrais chez moi, je fumais un joint, j'étais tellement bien. Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'étais capable de lire un bouquin parce que ma tête partait pas dans tous les sens et que j'étais capable simplement de m'asseoir et de regarder ce que je faisais sans partir à gauche, à droite et puis être capable d'aller dormir, que je comprends pas pourquoi, que petit à petit, j'en suis venu à en fumer un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis j'en suis arrivé à 10 joints, j'arrive plus à m'en passer. Mais au début, ils expliquent assez bien hein, comment ils sont arrivés à prendre ces substances-là. Hein.
C'est le cannabis la substance la plus utilisée par le TDAH ?
Cannabis et alcool, ouais, c'est les deux plus fréquents. Après, on a cocaïne, on a une partie de psychostimulants. Hein. Après, les autres addictions sont quand même plus rares. Hein. Après, c'est les mêmes. Alors, il y a toujours un peu plus chez les personnes qui ont un TDAH que chez les personnes qui n'en ont pas.
La sexualité aussi est particulière.
Ouais, alors après, il y a toutes les addictions au jeu. Alors, ça, c'est des addictions pour les substances. Mais après, vous avez alors une pléthore de TDAH qui ont des addictions aux jeux vidéo, hein, ou au sexe, ou au sport. Hein, parce que c'est toutes des activités qui vont être associées à de la récompense immédiate. Hein, donc, comme je suis très intolérant à la récompense à moyen long terme.
À la frustration.
Et à la frustration, je suis très dépendant de la récompense immédiate. Hein. C'est intrinsèquement lié à mon trouble. Bah, je vais avoir très vite tendance, si je joue aux jeux vidéo, hein, les jeux vidéo, ils sont pas cons, hein, les designers de jeux vidéo, c'est des monstres stars de psychologie. Ils les font pour attirer ces gens-là. Bah, et c'est très fort parce que si vous jouez à n'importe quel jeu vidéo, vous avez tout de suite des récompenses. Si vous avez un TDAH, vous avez un fort, fort risque de tomber dans l'addiction aux jeux vidéo. L'hypersexualité, c'est aussi un moyen de ce que... Moi, j'ai pas mal de patients qui sont hypersexuels. Alors, c'est plutôt les hommes que les femmes, hein, mais qui ont et qui expliquent que lors de l'éjaculation, il y a en fait un phénomène similaire à prendre une drogue et donc une capacité ensuite à se concentrer et à faire des tâches que je ne peux pas faire auparavant. Ça pose le système de la même manière. Ouais, et donc, j'ai des patients, par exemple, qui se masturbent pendant leur travail. Donc, quand ils n'arrivent plus, ils vont dans les toilettes, ils se masturbent, ils reviennent et ils sont capables de retravailler ensuite. Donc ça, c'est clair qu'il y a un lien entre hypersexualité et TDAH. Puis après, vous avez tous les addicts au sport.
Hein. Est-ce qu'on peut dire que chimiquement, le TDAH, est-ce que c'est un trouble, un déficit d'une molécule, d'un neurotransmetteur? C'est quoi? C'est déficit de dopamine, de sérotonine, de
c'est
quoi?
C'est une perturbation, alors pas de la sérotonine. Ce qu'on sait, c'est beaucoup de dopamine.
D'accord. Donc comme on est addict à la dopamine, de toute façon, si on en a moins, on va aller la chercher ailleurs.
On peut très basiquement le résumer comme ça. C'est voilà. Comme si on a une perturbation du système de dopamine et donc du système de récompense. Et donc je vais être constamment à la recherche de récompense immédiate pour nourrir en fait mon système. C'est pour ça que les traitements médicamenteux, hein, qui sont finalement des dérivés de cocaïne ou des dérivés d'amphétamine, pour lesquels par contre il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de tolérance, ben, en fait on va artificiellement nourrir le cerveau en dopamine et aussi un peu en noradrénaline. La noradrénaline, c'est plutôt l'éveil, la concentration, etc. Et puis, on va empêcher ainsi la personne d'aller chercher ailleurs des sources de dopamine. Donc, la personne va tout à coup, elle prend un psychostimulant, comme la ritaline, par exemple. Elle va avoir un focus sur ce qu'elle est en train de faire et elle peut patienter. Il n'y a pas besoin de faire tout de suite à l'arrache au dernier moment. Je peux le faire tranquillement, dans le temps voulu. J'ai plus besoin non plus d'aller forcément chercher des sources de dopamine extérieures. Et ça marche quand ça marche. Hein, ben ça marche pas toujours, mais quand ça marche bien, c'est vraiment très efficace.
Donc, vous conseillez aux adultes aujourd'hui qui se reconnaissent, là, par exemple, dans vos symptômes, les critères, de consulter. Donc, déjà, où est-ce qu'on consulte? Est-ce que les diagnostics sont fiables? Est-ce que c'est utile à un certain âge? On se dit, bon, bah, c'est foutu. Enfin, moi, je me dis, là, aujourd'hui, je ne me vois pas aller payer 900 balles pour me faire diagnostiquer un truc dont je suis sûre, que je suis sûre d'avoir.
Alors, c'est toujours utile, quel que soit l'âge de se faire diagnostiquer, en tout cas de voir si c'est ça ou pas, hein, parce que le TDAH, c'est un diagnostic qui est posé après exclusion d'autres pathologies. Il faut que je sois sûr que ce n'est pas des problèmes de sommeil, il faut que je sois sûr que ce n'est pas des problèmes, que ce n'est pas des conséquences.
Proche. Ouais. C'est proche aussi d'autres troubles, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic différentiel qui est compliqué.
Donc c'est là où il faut que je sois sûr que ce n'est pas une dépression, il faut que je sois sûr que ce n'est pas un trouble anxieux, il faut que je sois sûr que ce ne soit pas un trouble de personnalité borderline qui explique en fait ces symptomatologies-là. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter. Si le diagnostic est posé, ben il est jamais trop tard pour prendre des psychostimulants, parce que si ça améliore ma qualité de vie puis que ça m'empêche de partir dans tous les sens et puis d'avoir une vie plus organisée et de pas me retrouver à la rue parce que je me suis fait entre guillemets lourder par mon conjoint ou ma conjointe parce que je suis pas fiable, etc. Et puis que je me retrouve pas à devoir faire un procès pour la garde des enfants et autres. Et puis que je ne perds pas mon travail dans la foulée, bah ça vaut quand même le coup.
Alors attendez, là vous dressez un tableau très noir des conséquences. Par exemple, si on a réussi, comme certaines personnes, à s'en sortir, à compenser, à trouver justement déjà de faire des... Moi, je trouve ça génial parce que finalement, on est obligé d'aller vers des métiers qui nous passionnent. Il y a beaucoup d'artistes qui le sont du coup. Parce qu'en plus, non seulement on va vers des métiers passion qui apportent du plaisir, mais en plus, on va vers des métiers qui nous apportent une récompense immédiate parce que l'amour du public...
Donc ça, c'est si on arrive à le faire. Mais l'intérêt...
Là, il n'y a pas d'intérêt de se soigner, enfin de prendre des...
Alors là c'est-à-dire qu'à ce moment, ce n'est pas forcément un TDAH non plus, hein. C'est-à-dire que si j'ai pas de handicap, alors je peux de nouveau, hein, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, je peux avoir souffert à un moment, je peux avoir trouvé des mécanismes adaptatifs. Dans ces cas-là, je remplis plus les critères du TDAH. Mais c'est bien de savoir que j'ai ces symptômes-là et être attentif parce que c'est pas exclu qu'il y ait un changement environnemental dans la vie de cette personne-là qui fait que le système décompense et que tout à coup, je suis plus capable de fonctionner comme avant. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup d'avoir été diagnostiqué ou d'avoir une idée que j'ai potentiellement ça, et puis de retourner consulter pour savoir s'il faut instaurer un traitement à ce moment-là. Mais si on se reconnaît dans ces symptômes-là, ça vaut la peine quand même d'aller voir quelqu'un pour savoir si j'ai ou pas. Est-ce que je l'ai, mais qu'actuellement, ce n'est pas forcément exprimé de manière suffisamment sévère pour remplir la totalité des critères diagnostiques, et donc que c'est latent quelque part, mais qu'il faut y être attentif parce que ça peut réémerger plus tard. Il y a des patients qui vont décompenser à la retraite, par exemple, hein, ou à la retraite, ben, ils se retrouvent avec le conjoint à la maison, à ne pas savoir quoi faire, les enfants se sont barrés, il n'y a plus de job où je peux dépenser mon activité, et je commence à le faire à la maison, et puis le conjoint n'a peut-être pas de TDAH, et puis il devient fou. Et en fait, ça amène à un conflit de couple phénoménal qui parfois ne peut être résolu que par soit une prise en charge spécifique pour le TDAH, soit des traitements médicamenteux.
D'accord. Et là, on parle des adultes, âgés, mais pour nos enfants, alors, aujourd'hui, si on reconnaît ce symptôme, donc diagnostic, c'est neuropsychiatre, c'est ça, neuropsychologue, c'est comment on appelle
ça? Oui, alors je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est, je ne sais pas si les pédiatres sont autorisés ou pas.
Non. C'est neuropsy,
les neuropédiatres ou les pédopsychiatres, je ne sais pas, qui diagnostiquent ça, enfin qui sont autorisés à diagnostiquer et à instaurer un traitement.
Est-ce qu'il peut y avoir des degrés en fait, de TDAH? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des degrés très, très élevés d'atteinte neurobiologique. Enfin, je ne sais pas comment
on dit, mais en tout cas, peut-être... Vous avez des sévérités qui ne sont pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire
d'accord.
qu'on peut... On peut avoir quelques symptômes, être tout juste à la limite, avoir un super environnement dans lequel j'évolue... Et finalement, le handicap est très léger. Et puis, avoir 9 symptômes d'attention sur 9 et 9 symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité sur 9, grandir dans un environnement difficile dans lequel ça va exploser, ça va s'exprimer dans tous les sens. Et dans ces cas-là, on a une sévérité qui est majeure, hein, et qui impacte toutes les sphères de l'individu. Donc oui, il y a des degrés qui sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Hein, ça, c'est... Et dans les très, très sévères, vous arriverez jamais que par l'environnement à changer le fonctionnement de la personne. Là, il faudra avoir recours au traitement médicamenteux.
Voilà, c'est ça que je voulais savoir, parce que par rapport justement à mon fils, j'ai l'impression qu'il gère... Enfin voilà, je reconnais plein de choses, et en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas sévère. Bon, déjà, il n'y a pas d'hyperactivité, donc il y a un moyen quand même de se poser. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que la prise en charge, elle peut atténuer donc, tous les symptômes et les conséquences, par exemple les traitements médicamenteux, comme vous dites. Mais il y a aussi quand même des méthodes de traitement, tant pour les enfants que pour les adultes, comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est ça? Ça peut totalement aider?
Oui, alors ça peut clairement aider. Alors, c'est ce qu'on va faire aussi hein, chez les enfants, hein. Quand ils commencent à être un peu plus âgés, quand ils sont capables d'apprendre des choses. Hein. La TCC, c'est un apprentissage de compétences qu'on va enseigner à l'individu pour qu'il fasse avec ses symptômes attentionnels, pour qu'il fasse avec son hyperactivité, pour qu'il apprenne aussi à réguler ses émotions, pour que ça impacte moins le système attentionnel et puis que ça péjore moins l'hyperactivité ou l'impulsivité. Ça marche bien chez l'enfant, et puis surtout avec l'implication de l'entourage. Ça marche moins chez l'adulte. Chez l'adulte, on n'a pas d'évidence que ça fonctionne sans traitement médicamenteux. Donc à nouveau, hein, j'insiste sur le traitement médicamenteux parce que je suis acheté par les boîtes pharma, parce que c'est aussi une des croyances. Hein. C'est juste que les études simplement qui montrent que sans traitement médicamenteux, les TCC chez l'adulte, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est le combo gagnant, c'est grosso modo traitement médicamenteux plus TCC, c'est-à-dire l'apprentissage de compétences ou l'enseignement de compétences aux patients.
Et concrètement, le traitement médicamenteux, c'est des amphétamines, c'est ça?
Alors, c'est des dérivés amphétaminiques ou des dérivés de cocaïne. Donc, le méthylphénidine. c'est des psychostimulants.
Non, mais vous comprenez que ça fasse peur aux parents.
Alors, ça fait peur. Après, c'est des médicaments pour lesquels il n'y a pas de dépendance ou de tolérance. Donc, ce n'est pas des médicaments dans lesquels on va avoir un risque de dépendance. Ces
Pourquoi
médicaments qui sont associés... Parce que c'est une libération longue, qui est pas... C'est pas je prends puis j'ai un shot, en fait, comme pourrait l'être la cocaïne ou comme pourrait l'être les amphètes qu'on achète sur le marché noir. Entre la prise et le début de l'effet, il y a généralement 45 minutes, une heure. Ensuite, l'effet est dilué dans le temps, donc on perçoit plutôt quelque chose d'assez fin. C'est pas un paf... Tout à coup, dans une minute, je suis concentré, etc., comme un sniff de coke. C'est quelque chose qui prend du temps, ça s'installe tranquillement. Et puis, je vais simplement avoir un meilleur fonctionnement au cours de la journée. Je suis plus attentif, plus contrôlé, moins impulsif, moins hyperactif, etc. Et après, c'est des médicaments aussi pour lesquels on a peu d'effets secondaires. Alors, il en existe, hein. Il y a des effets secondaires cardiovasculaires. Ça peut augmenter un peu l'anxiété quand on le prend. Ça peut empêcher de dormir le soir si on le prend trop tard. Et puis, il y a un effet coupe-faim qui est un peu embêtant chez les enfants parce que ça peut avoir un impact sur la taille si on le prend trop régulièrement. L'idée, c'est... Bon, c'est pas énorme, hein, mais il y a quand même ça auquel il faut être attentif.
J'ai une autre question aussi. Donc, on a ce truc-là d'aller chercher le plaisir immédiat aussi, mais la procrastination qui est un des critères principaux. Est-ce que on peut vraiment dire qu'il y a un trouble de la motivation que moi, je ressens très fort. Par exemple, quand j'ai arrêté de consommer l'alcool et la drogue, on m'a demandé beaucoup « Et ça va, t'arrives toujours à créer, t'arrives toujours à écrire ?» Alors moi, je pense que c'est le fantasme de l'inspiration des produits. Moi, j'y crois pas. En revanche, je crois vraiment à la motivation que ça donne. Moi, ça m'a donné souvent envie de me mettre au travail, envie d'écrire et surtout envie de croire que j'étais capable de le faire. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi Jean de me dire j'ai envie de créer.
Ah, ouais. Alors la procrastination c'est en effet un manque de motivation. Hein. Donc c'est-à-dire que je vais si j'ai pas quelque chose où je peux avoir le résultat immédiat, je vais pas le faire. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre de côté la tâche. Si ça me demande un effort phénoménal, je vais pas le faire et je vais mettre de côté la tâche. L'émotion sous-jacente qui explique ça, c'est qu'en fait, la personne sait que ça va être long. Donc, elle a fait l'expérience que c'est une charge importante cognitive, qu'il y a déjà des difficultés d'attention. Et donc, c'est une tâche qui fait peur. Et donc, la peur va alimenter le manque de motivation et alimenter la procrastination. C'est pour ça que quand on boit de l'alcool, l'alcool, c'est un anxiolytique. Hein. Vous enlevez la peur et donc, c'est facile d'entrer dans la tâche. D'accord ? C'est complètement con. Vous avez le même phénomène si vous avez une addiction aux benzos, hein, vous prenez des benzodiazépines, mais vous aurez le même effet, ça va enlever la peur et puis vous serez capable de faire la tâche. Le problème, c'est que c'est très vite addictogène, hein, il y a une dépendance qui s'installe très vite aux deux substances, que ce soit l'alcool ou les benzos. Alors, l'avantage, on va dire, des psychostimulants, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Si vous en prenez un, ben, vous allez nourrir votre système en dopamine et ça va vous permettre de rentrer dans la tâche, d'accord ? Et de faire ce que vous n'étiez pas capable de faire jusqu'alors parce que vous procrastiniez. C'est une autre façon, en fait, de contourner la peur générée par la tâche qu'on doit faire. Le plus classique, c'est vous avez un mail important à écrire, bah, ça vous fout les boules, donc vous le faites pas. Et puis, il y en a un deuxième qui arrive, ça vous fait encore plus peur, donc vous faites encore moins. Et puis, vous commencez à accumuler 250 mails et puis vous vous retrouvez à la fin de la semaine avec 483 mails non ouverts auquel vous n'avez pas répondu parce que ce n'était pas possible. Et ça, c'est vraiment la peur qui génère la procrastination. Ça, c'est assez bien décrit dans la littérature sur le TDAH. Et le fait de rajouter de la dopamine en fait, dans le système, ça fait que j'ai plus de niaque, j'ai plus de motivation et j'outrepasse. En fait, je vais agir à l'opposé hein, de la peur. C'est que je passe dessus, je commence la tâche. Et puis le fait de commencer, ça fait disparaître la peur.
Exactement. On se rend compte que la procrastination et l'addiction sont très, très liées parce que l'un alimente l'autre. On a des problèmes d'addiction, donc on procrastine. On procrastine, donc on a des problèmes d'addiction. C'est un cercle vicieux infernal. C'est horrible. En fait, vous, tout simplement, pour en terminer quand même, vous considérez que le traitement médicamenteux est vraiment la solution pour... Moi, je parle en termes d'addiction. C'est-à-dire, si on veut pas... D'abord, si on veut arrêter une addiction...
Alors, si on a un TDAH, hein, de nouveau... Hein,
oui, mais c'est pas.
Faut pas commencer à prendre des traitements médicamenteux qui sont des psychostimulants
si on a une addiction
à la cocaïne et puis qu'on n'a pas de TDAH. Mais si on a un TDAH et puis qu'on en arrive à avoir un diagnostic de TDAH et puis que c'est de traiter... Et plus tôt c'est fait, plus ça prévient ou plus ça permet de se passer de la substance addictogène. Donc addictive. Donc il y a vraiment un intérêt à faire ça, hein, puis à savoir est-ce que j'ai ou pas, parce que ça va vraiment me permettre de mettre de côté.
Donc si je dois résumer, il faut savoir. Donc déjà, si on a un doute, faisons les tests. Correctement, hein, parce que c'est pas un questionnaire, hein, c'est vraiment des tests qui se font en plusieurs séances chez un neuropsy en France. Deuxièmement, une fois qu'on est diagnostiqué, réfléchir au traitement médicamenteux et aux thérapies cognitives ou comportementales. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut un accompagnement de l'entourage. En fait, à partir du moment où on valide que ce n'est pas de notre faute. Donc ça, c'est important. C'est comme pour l'addiction. D'ailleurs, vous n'êtes pas coupable. C'est une maladie. C'est la même chose, c'est ça ? Donc, de déculpabiliser la personne diagnostiquée, c'est ça qui va changer énormément.
C'est pareil. Ouais. C'est la même chose. Qu'on soit petit ou grand, que ton entourage soit au courant. Et nous permettre de faire le changement. Parce que si j'entame un processus de changement par rapport à des difficultés et autres, et puis que j'ai mon entourage qui n'en a rien à cirer, ça va quand même être compliqué. Hein.
C'est ça.
Ça va pas être possible.
Moi, j'ai une amie qui a fait diagnostiquer son fils et à partir du moment où il l'a été, enfin, il avait des très mauvaises notes, il n'arrivait pas à travailler, tout était catastrophique et il s'est mis au boulot et soudainement, il est devenu assez bon élève. Et en fait, juste parce qu'il s'est dit, mais en fait, c'était pas ma faute, les professeurs le regardent différemment.
Ouais, ça enlève la pression. C'est ce qu'on va vraiment enseigner aux parents, hein. C'est expliquer, comprendre, être patient. C'est clair que c'est emmerdant quand on est les parents d'un TDAH parce qu'il va falloir qu'on fasse un peu plus que d'autres parents autour de son enfant et puis accepter parfois que je dois faire des compromis moi en tant que papa ou en tant que maman avec mon enfant. Ce que d'autres parents n'ont pas à faire, c'est le prix à payer, mais ça vaut vraiment le coup.
Mais moi, je trouve ça génial parce que quelque part, ça nous fait faire un travail qu'on ne fait pas forcément, c'est-à-dire d'accepter son enfant tel qu'il est et de se dire qu'il a le droit, en fait. Bon, moi, de toute façon, ce n'est pas l'école qui m'importe, ce n'est pas les bonnes notes, ce n'est pas pour ça qu'on fait l'épisode. Moi, ce qui m'importe, c'est que nos enfants ne deviennent pas cocaïnomanes.
Oui, mais ça, c'est le but. C'est-à-dire que si on leur offre un environnement, c'est vraiment le même truc. Si j'offre l'environnement le plus validant pour mon gosse, c'est-à-dire je m'intéresse à ce qu'il a, je m'intéresse à ses difficultés, c'est pas grave s'il va pas devenir le grand ponte ou le président de la République et puis qu'il fait un job et puis qu'il est heureux dans sa vie, je vais éviter les addictions. Hein. Je veux dire, les addictions, c'est on devient addict parce qu'on est malheureux ou parce qu'on a des symptômes. Autrement, on l'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que je boive de l'alcool tous les soirs si ma vie, elle est super cool. C'est vrai.
C'est ce qu'on disait avec le philosophe Frédéric Lenoir. On est heureux quand ma vie ressemble à ce qu'elle devrait être et quand on aime la vie qu'on mène, en fait.
Mais ça, vous pouvez le faire que si vous avez grandi dans un environnement qui vous a permis de développer ça. Si on est dans un environnement qui nous casse tout le temps, puis qui nous sape tout le temps, puis qui dit « Ouais, tu pourrais faire mieux, concentre-toi, regarde autour de toi, les autres, ils sont tout à fait capables de se taire en classe, je sais pas pourquoi tu fous le bordel comme ça, ou je sais pas pourquoi tu ramènes des mauvaises notes à l'école », et qu'on entend constamment ça au cours de son développement, c'est quand même compliqué à l'âge adulte d'avoir confiance en soi. Et quand j'ai pas confiance en moi, je vais trouver d'autres solutions pour avoir confiance en moi, dont l'addiction.
Merci beaucoup, professeur Nader Ferro. Je rappelle que vous avez donc des ouvrages, des manuels pour la personnalité borderline, pour le TDAH avec ou sans hyperactivité chez l'adulte. Vous êtes spécialisé chez l'adulte ?
C'est ça, chez l'adulte, oui.
Et puis d'autres ouvrages aussi que je n'ai pas cités, j'imagine.
Alors chez Erol, on a aussi un manuel sur l'autisme.
Sur l'autisme.
Voilà.
Nous avons le même éditeur, donc je salue les éditions Erol. Et je vous remercie et je vous laisse retourner à vos activités précieuses pour nous, adultes TDAH.
Merci beaucoup pour l'invitation, puis à tout bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.